Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 6h, merci de nous rejoindre.
Maintenant, quand je suis en manif, j'ai peur des flics. Ça ne va pas, c'est une institution qui est malade. Qui est-ce qu'on engage? Comment on les forme?
Le lien de confiance entre la police et la population est-il rompu? Plus de 130 000 personnes sont descendues dans les rues hier pour dire stop. Stop à la loi sécurité globale, stop aux violences commises par certains policiers. Un défilé et un appel à la réaction des pouvoirs publics.
Ce week-end marque aussi la réouverture des commerces partout en France. Nous serons à Bordeaux. C'est également la reprise des messes avec une jauge à 30 personnes. Que rejette l'Église? Le Conseil d'État est saisi et doit rendre son avis dans la journée.
Enfin, que se passe-t-il au PSG? La machine à gagner est en panne. Les Parisiens ont fait match nul hier face à Bordeaux.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les Français se sont donc massivement mobilisés hier. Plus de 130 000 personnes sont descendues dans les rues pour dire non aux violences policières.
130 000 selon la police, plus de 500 000 selon les organisateurs. Dans une centaine de villes en France, les manifestants ont dénoncé à la fois le texte de loi sur la sécurité globale et donc les violences policières. Les affaires se sont accumulées ces derniers jours. Le lien de confiance entre la police et la population s'effrite. C'est ce qu'a constaté Romain Oquet dans le cortège parisien hier.
Cette violence, moi j'ai des amis qui l'ont vécu, qui l'ont subi d'ailleurs. C'est inadmissible.
Des actes isolés soutient pourtant Ahmed. Cet habitant de Seine-Saint-Denis évite les généralités sur la police. Il manifeste avec ses deux garçons.
Vous savez les enfants?
Oui.
Les policiers sont là pour servir et protéger. C'est une forme d'éducation pour les enfants. On n'est pas contre la police surtout. Mais effectivement, il faudrait que ça change. Qu'on essaye de dégager tous les brebis galeuses, surtout ça.
Dans la foule, on devine une pancarte en lettres rouges. C'est celle d'Antonia, par le doute.
C'est écrit « Arrêtez de nous agresser ». C'est-à-dire que moi maintenant, quand je suis en manif, j'ai peur des flics. Ça ne va pas, c'est une institution qui est malade. Qui est-ce qu'on engage? Comment on les forme? Le suivi psychologique de ces gens, parce qu'il y a beaucoup de policiers en détresse aussi.
Et puis ajoute-t-elle, il faut durcir les sanctions contre les fonctionnaires fautifs. Cette refonte de la police, Myriam n'y croit pas, écœurée par le gouvernement.
C'est quoi la réaction de l'exécutif? La réaction, c'est la loi sécurité globale. De maintenir un affrontement entre la police et la population, là, on dirait qu'on fait passer des lois qui vont empirer les problèmes. L'exécutif, pour moi, il souffle sur les braises.
Des braises qui pourraient s'éteindre grâce à une décision, assurent ces manifestants. La démission du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Reportage de Romain Oquet. Hier, en fin de journée, des affrontements ont éclaté au moment de la dispersion des manifs. Affrontements notamment à Paris. En tout, une cinquantaine de personnes ont été interpellées. 37 policiers ont été blessés.
Mais ces manifestations se tiennent quelques jours après une nouvelle affaire, l'agression de Michel Zecler par des policiers. 4 fonctionnaires de police sont d'ailleurs toujours en garde à vue.
Interrogés dans les locaux de l'IGPN, la police des polices largement critiquée ces derniers jours, accusée de laxisme. Faut-il la réformer? Ça n'est pas la première fois que le sujet revient sur la table. Lorsqu'il était ministre, Manuel Valls avait déjà évoqué la question.
C'est vrai qu'on peut améliorer les choses. Je m'étais posé la question d'ailleurs comme ministre de l'Intérieur, puis finalement, on n'avait pas intégré une proposition qu'à chaque fois qu'il y a un problème entre un policier et une personne, ou qu'il y a une procédure tout simplement, c'est qu'il y a à chaque fois un représentant du défenseur des droits. Je pense que ça serait, à ce moment-là, pour le citoyen, une garantie supplémentaire de l'enquête impartiale, de l'enquête transparente que l'IGPN peut mener. Je pense qu'il faut à chaque fois se donner les garanties, et on peut adjoindre donc un représentant du défenseur des droits pour des procédures qui mettent en cause le rapport entre la police et les citoyens.
L'ancien Premier ministre Manuel Valls, invité hier soir de Wendy Bouchard sur Europe 1, le fonctionnement, la réforme de l'IGPN. On parlera de ces sujets tout à l'heure dans le journal de 8h avec le secrétaire de l'UNSA Police, Thierry Clerc. L'autre titre de l'actualité ce matin, Marguerite, c'est bien sûr la réouverture des commerces.
Vous avez pu le constater hier en vous promenant, l'activité est revenue à un mois de Noël. Tous les commerces ont de nouveau le droit d'accueillir des clients, mais avec un protocole sanitaire très strict. On le rappelle, 8 mètres carrés par client. Résultat pour maximiser les ventes, certains innovent, exemple à la librairie Mola de Bordeaux, Stéphane Place.
Pas plus de 330 personnes en même temps dans la librairie classique, d'où l'idée pour éviter la cohue, d'aménager à côté une nouvelle surface de vente avec non pas 180 000 références, mais une sélection de 600 livres. Sur la pile, les premiers sont visibles, tous les autres sont emballés, le paquet cadeau est déjà fait. Emmanuelle Robillard, directrice projet chez Mola.
On a travaillé pendant tout le temps du confinement à fabriquer des paquets cadeaux et à y mettre une étiquette spécifique où on retrouve le titre et le code barre pour vite passer en caisse sans le prix, comme ça le client peut partir et décoller son étiquette amovible. possible. Les clients peuvent passer très peu de temps à venir chercher leurs cadeaux.
Satisfaire des clients pressés tout en préservant le conseil. Pierre Coutel, libraire chez Mola.
Il faut être capable, en réduisant sur 600, d'avoir le même exemplarité qu'on a sur 180 000. Les choses évidentes qui parlent à tout le monde et puis les choses plus originales conseillées par les libraires qui font que les gens savent, ils nous font confiance. Un livre recommandé s'adressant à tel type de public qui aime le livre d'aventure, le roman, la bande dessinée, c'est un conseil sur lequel ils peuvent s'appuyer.
Autre habitude désormais bien ancrée chez les clients avec le confinement, le click and collect. Alors ici, pour les fêtes, sur les réseaux sociaux, les libraires proposent également une sélection de 100 livres, réservation à distance et possibilité de récupérer, de payer le titre choisi, déjà empaqueté au comptoir de la librairie bordelaise. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Et la librairie Mola, comme beaucoup d'autres qui se préparent sans doute à afficher le Goncourt qui sera remis demain. Goncourt qui fait vendre en moyenne, je vous le rappelle, 300 000 livres. Hervé Le Tellier avec L'Anomalie chez Gallimard par favori. Hervé Le Tellier sera mon invité à 7h40.
Autre changement du week-end, les lieux de culte peuvent de nouveau accueillir des fidèles depuis hier, mais avec une jauge de 30 personnes maximum.
La jauge qui fait polémique. L'Église de France a d'ailleurs saisi le Conseil d'État qui devrait se prononcer tout à l'heure dans la matinée.
Ouais, imposer la règle de 30 personnes, quelle que soit la taille de l'Église, eh bien certains en effet ne comprennent pas. Reportage à Strasbourg de Mélina Fachin.
Chantal, une fidèle, revient à la messe avec joie pour la première fois depuis un mois.
De se retrouver sur Facebook, c'est bien, mais il manque quand même du contact humain et surtout de l'Eucharistie. On ne peut pas communier par Facebook.
Frères et sœurs, bienvenue à vous, même si nous demeurons comprimés dans des normes assez ubuesques, il faut bien le dire.
Des normes ubuesques en référence à la jauge de 30 personnes maximum autorisée dans les églises, le père Michel Steinmetz juge cette mesure incompréhensible.
C'est de l'ordre du sketch. J'ai du mal à comprendre la logique qui fait qu'on ne puisse mettre que 30 personnes ici, une des plus vastes églises de Strasbourg, alors qu'on va aussi mettre 30 personnes dans des églises de campagne bien plus petites.
Monseigneur Luc Ravel, l'archevêque de Strasbourg, en appelle directement à l'État.
Pour les commerces, ils appliquent la norme de 8 mètres carrés par exemple, et puis pour nous, d'un seul coup, une jauge de 30 personnes. Donc il faut maintenant que le gouvernement recule du chemin d'impasse et de ridicule dans lequel il s'est enfermé.
Et c'est pourquoi il a même saisi, comme d'autres diocèses, le Conseil d'État. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Avis du Conseil d'État attendu donc dans la journée. Sachez par ailleurs que le président de la Conférence des évêques de France sera reçu d'ici ce soir par le Premier ministre.
Il sera l'invité, lui, tout à l'heure du grand rendez-vous d'Europe 1, le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui a obtenu gain de cause sur le télétravail.
Il ne voulait pas de nouvelles obligations pour les entreprises. Et bien, dans l'accord passé avec les syndicats jeudi dernier, pas d'injonction, mais un nouveau mode d'emploi, Olivier Samin.
Une éclaircie, bienvenue dans un paysage encore bien sombre. Voilà ce qu'a dû se dire Geoffroy Roux de Bézieux cette semaine en apprenant que tous les syndicats, sauf la CGT, vont finalement signer l'accord sur le télétravail. Éclaircie, bienvenue, car il faut remonter loin pour trouver la trace d'un accord national interprofessionnel signé entre le patronat et les syndicats. Et celui-là a une saveur toute particulière pour le MEDEF qui, dès le départ, avait fixé une ligne rouge. Le texte ne devait être ni normatif, ni prescriptif. Autrement dit, n'imposer aucune obligation nouvelle aux entreprises. C'est le cas. L'accord conclu jeudi se limite à un mode d'emploi qui encourage seulement les partenaires sociaux dans chaque entreprise à fixer par le dialogue social les conditions de mise en œuvre du télétravail. L'éclaircie, elle est aussi bienvenue pour le président du MEDEF car un échec dans cette négociation aurait conduit le gouvernement à reprendre le sujet à son compte, alimentant encore un peu plus l'idée que le patronat et les syndicats sont devenus hors-jeu. Eh bien non, finalement, sur ce sujet en tout cas, ils ont réussi à rester dans le jeu.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Le gouvernement fait un geste envers les entreprises toujours fermées en raison du confinement. Les bars, les restaurants, les salles de spectacle. Pour elles, le plafond d'indemnisation sera relevé. Il passe de 100 000 à 200 000 euros.
Décidément, rien ne va plus au PSG. Décevant en Coupe d'Europe. Les Parisiens n'ont pas fait mieux hier soir en championnat.
Ils ont concédé le match nul face à Bordeaux, de partout au Parc des Princes. Déception et colère même de leur entraîneur, Julien Froment.
Une défense friable, une attaque sur courant alternatif et ce premier match nul de la saison qui a des allures de défaite pour l'entraîneur parisien Thomas Tuchel. C'est bien simple, l'Allemand, habituel fusible quand la foudre médiatique s'abat sur son équipe après un mauvais match, n'a pas voulu cette fois-ci servir de paratonnerre.
Je défends mon équipe toujours. Quand je peux voir des raisons pourquoi c'est comme ça, mais aujourd'hui je peux pas, je ne veux pas parce que je peux voir aucune raison pour cette deuxième mi-temps. On a manqué, je ne sais pas pourquoi, mais on a manqué tous, on a manqué attitude, on a manqué effort, on a manqué discipline. Je suis très déçu, très déçu. C'est pas assez sérieux.
Thomas Tuchel mécontent et surtout inquiet car un déplacement à haute tension attend son équipe mercredi prochain à Old Trafford contre Manchester United en Ligue des Champions. Seule bonne nouvelle, le milieu de terrain Marco Verratti a retrouvé de l'autonomie. Les absents Marquinhos et Keylor Navas feront aussi leur grand retour au Paris Saint-Germain de recharger ses batteries pour s'éviter à tout prix le court-circuit européen.
Julien Froment, les Bleus du rugby poursuivent sur leur incroyable lancée avec une équipe bis et avec plein de nouveaux. Ils ont battu l'Italie hier 36-5. Les Bleus sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'automne des Nations. Ils affronteront l'Angleterre le week-end prochain.
La vidéo a été vue plus de 40 000 fois sur Internet. 4 minutes, bah oui, il faut se contenter de 4 minutes de violoncelle dans un musée totalement vide.
Pendant le premier confinement, la violoncelliste Camille Thomas s'est rendue au musée des arts décoratifs pour faire vivre sa musique et aussi ce lieu déserté à cause du confinement. Elle y est retournée cette semaine et cette fois, Angèle Châtelier était présente pour Europe 1.
Camille Thomas est assise, seule, au milieu des murs boisés du salon 1900 du musée des arts décoratifs. Son ambition, réveiller les musées confinés, dit-elle, symboliser la solitude du musicien aussi, contraint de jouer sans public ou presque depuis des mois.
Chaque lieu est une inspiration extraordinaire parce qu'ils ils ont en eux tous les fantômes du passé, ces gloires du patrimoine aussi. Et puis, pour moi, ces musées portent un message d'espoir parce qu'ils représentent l'art comme un art éternel. Et je pense que le rôle des artistes, plus que jamais, est d'apporter de la beauté, de l'espoir. Et c'est pour ça que j'ai pris mon arme, qui est mon violoncelle, et je suis allée jouer dans ces musées vides.
Le but de Camille Thomas, publier ensuite ses vidéos sur Internet, comme celle de sa session à l'Institut du Monde Arabe, où elle jouait le Kaddish, une œuvre de Ravel. Camille Thomas dévoilera prochainement des vidéos d'elle, jouant dans la Galerie de l'Évolution ou encore au Grand Palais.
Du violoncelle, je me souviens dans l'école de musique que c'était l'instrument qui reflétait, qui incarnait le plus la voix humaine. Qu'est-ce que vous en pensez, Marguerite ?
Il va falloir que je réfléchisse.
Petit sujet de réflexion. Ouais. Non, mais c'est un beau symbole. C'est un très beau symbole que fait justement cette jeune musicienne. Comment faire vivre la culture en pleine pandémie ? Comment faire face aux difficultés du secteur ? Il y a des gens derrière, il y a du social. Hein. Il y a des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer quand même, hein, il faut le dire. Et on en parlera avec la soprano Patricia Petitbon tout à l'heure à 8h15, car Internet ne peut pas bien sûr tout régler. Merci Marguerite. À tout à l'heure pour Journal de 7h.